les comédiennes. La comédienne écrivain est décédée la nuit dernière à 89 ans. Une grosse perte pour le théâtre, témoignage d'un ami de la défunte, son portrait également. Un tour que nous avons effectué au domicile de Lemoine pour constater leur simplicité et la place de l'art dans leur vie. Affaire à vrai, la Commission aux droits de l'homme de l'ONU appelle le Sénégal à revoir sa décision de renvoyer Hissène Habré au Tchad. Pendant ce temps, 6 associations de défense des droits de l'homme formulent la même requête et également un collectif de soutien à l'ancien président tchadien en partenariat avec les habitants de Wakam qui envisage un rassemblement à la grande mosquée de la localité cet après-midi. Campagne agricole, le ministre Khadim Gueye en charge de l'agriculture satisfait du déroulement de la distribution des semences, même s'il reconnaît des impairs, comme c'est le cas à Kaffrine, où le secrétaire général du syndicat Diapando constate un retard dans la livraison des semences et des intrants, appelle les autorités à réagir. Dans le domaine de la pêche, les acteurs du secteur invitent à une pratique responsable pour sortir le secteur de la pêche des difficultés. Ce journal vous est présenté par Mako Mbombo. La technique est assurée par Abdoulaye.
RFM Midi.
RFM Midi, Mako Mbombo.
Bienvenue à tous. Jacqueline Scott Lemoine n'est plus. La comédienne et écrivain est décédée la nuit dernière. Une grosse perte pour le théâtre sénégalais. Ces mots sont de Gérard Chéret, un haïtien et ami de la défunte. Il se dit touché par le décès de Madame Lemoine. Écoutons Gérald Chenet, joint par Elhadj Ndiogoudiad.
Je suis moi-même très triste et que c'était une très grande amie et que c'est tout un monde. Et pour moi, au Sénégal, qui toute une page et qui tourne, qui a tourné, et car Jacqueline a animé beaucoup le théâtre au Sénégal. Elle a été l'une des principales figures du théâtre Sorano, et tous ceux qui sont dans le domaine de l'art peuvent dire qu'ils ont perdu une grande amie et qu'ils ont perdu beaucoup en perdant Jacqueline.
Qui est Jacqueline Scott Lemoine, comédienne, écrivain. Elle est arrivée au Sénégal en 1966 et c'était pour y rester toute sa vie. Natambay.
Des cheveux tout blancs, une mine sérieuse et une allure de grand-mère à la sénégalaise. Une sénégalaise pas comme les autres. C'est sûr, Jacqueline Scott Lemoine va manquer au Sénégal. Elle s'en est allée sur la pointe des pieds. Ici même à Dakar, sa ville d'adoption, devenue tout simplement sa ville. Jacqueline, la comédienne, a foulé le sol du pays de la Teranga avec son défunt époux Lucien Lemoine en 1966 lors de la première édition du Festival mondial des arts nègres. Elle interprète le rôle de la reine dans la tragédie du roi Christophe devant un parterre de remarquables personnalités telles que Léopold Sédar Senghor, Haïlé Selassie Ier, Duke Ellington ou encore Aimé Césaire. Jacqueline finit par intégrer la compagnie du Théâtre National Daniel Sorano. Elle et son mari prennent la nationalité sénégalaise en 1976. Pendant 12 ans, la comédienne a produit avec son mari poète l'émission La Voix des Poètes à la télévision nationale sénégalaise. Après quelques années sous les projecteurs, elle se consacre à l'écriture avec son premier et dernier roman, Les Nuits de Touloucia, paru en 2005. Une vie bien remplie d'aventures exaltantes et d'instants de bonheur, mais une vie qui a aussi connu des moments de tristesse. Le 13 avril 1997, son fils unique décède d'un accident de voiture à Paris. Mais Jacqueline Scott Lemoine est plus que jamais déterminée à poursuivre sa vie d'artiste engagée et épanouie. Avec le décès de Lucien, survenu le 13 janvier 2010, Jacqueline perd son compagnon, son meilleur ami et son jumeau. Elle est abattue, mais une fois de plus, tient le coup. Hélas, le monde ne suffit pas pour contenir sa peine. Elle rejoint son époux, laissant derrière elle 12 millions d'orphelins au Sénégal et quelques autres milliers dans le reste du monde.
Jacqueline Lemoine, qui a vécu dans la sobriété jusqu'à hier, jour de son rappel à Dieu, dans l'appartement qu'elle occupait avec son défunt compagnon Lucien Lemoine. Aucune mondanité, de l'art, rien que de l'art. Mohamed Alimba.
Immeuble Yorolam, 6e étage, à gauche, une porte qui donne sur un appartement de 3 pièces et un salon transformé en bibliothèque. Plus loin, une chambre à droite, celle de Jacqueline et de Lucien. Delgado Didier Claude, fils adoptif du couple.
Ça a été fait avec un simple bois, c'est un lit simple qu'on a collé avec un matelas très simple parce que c'était des gens, en fin de compte, qui ne se prenaient pas la tête.
Une chambre pleine de vie, faite de portraits, de tableaux d'art et de photos. Une vie entre Haïti et le Sénégal.
Ils ont essayé de faire une photo de famille, de ceux qui vivent à Haïti. enfants et des neveux, des cousins, des cousines. Et là, vous avez, voilà, justement, les deux, hein, Lucien Lemoine qui nous a quittés il y a de cela un an et demi, et Jacqueline qui était lors d'une cérémonie près du ministère de...
Toujours ensemble.
Toujours ensemble, et Jacqueline avait...
Le couple mythique est arrivé au Sénégal en 1966 lors du Festival mondial des arts nègres sur invitation de Senghor. Et depuis la mort de Lucien, Jacqueline était devenue inconsolable.
Depuis le décès de Lucien, n'a pas supporté ce départ. Elle demandait toujours à aller rejoindre son mari parce qu'elle n'avait plus, comme elle disait, elle n'avait plus sa raison d'être.
Jacqueline Lemoine rejoint ainsi Lucien, son mari et compagnon de toujours, décédé il y a juste un an et demi.
RFM, la radio de toute l'actualité.
12h07, nous reparlons de Hissène Habré et de la décision des autorités sénégalaises de le renvoyer au Tchad demain. Le commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a appelé ce dimanche le Sénégal à revoir cette décision d'extrader Hissène Habré vers son pays d'origine. Madame Nabi Pillay déclare que cette extradition pourrait constituer une violation du droit international. Au même moment, 6 associations de défense des droits de l'homme, parmi lesquelles la RADO, la FIDH et Human Rights Watch, invitent le Sénégal à extrader Hissène Habré vers la Belgique plutôt qu'au Tchad où il risque la peine de mort. Ces organisations estiment que la décision de Maître Ouad de renvoyer Habré dans son pays apparaît comme illégale au regard du droit sénégalais et contraire aux principes internationaux. Le collectif africain de soutien au président Habré, en partenariat avec les habitants de Wakam, envisage de son côté un important rassemblement cet après-midi à la grande mosquée de Wakam. Écoutons à ce sujet Abdoukarim Hamid.
Nous sommes surpris et nous sommes choqués. Pourquoi nous sommes étonnés? Parce que le Sénégal, c'est un pays de droit. Le Sénégal, c'est notre pays d'accueil. Le Sénégal, c'est notre DSP, c'est notre patrie. Hissène Habré est ici à Dakar depuis 21 ans. Donc Habré, c'est Wakamois d'abord. Depuis 21 ans, il habitait à Wakam. Donc, le Wakamo, elle le voyait en tant qu'un aîné, en tant qu'un oncle, un frère. Elle entretenait des relations, de bonnes relations avec tous les Wakamois. Donc, les Wakamois ne vont pas accepter que Hissène Habré soit extradé vers le Tchad, tout simplement. Parce que l'extradition de Hissène Habré, c'est l'extradition de tous les Wakamois. C'est clair. Hein? Et c'est là qu'on a pris le dispositif et on se groupé en association, en collectif africain et d'autres associations. Et il faut que ce soit clair. Que Hissène Habré ne soit pas extradé. Qui veut? L'État sénégalais, c'est vrai, il a pris des décisions, mais nous, en tant que citoyens, en tant qu'Africains, en tant que Wakamois, on ne peut pas accepter ça. Figurez-vous que Habré, c'est un Sénégalais. Parce que 21 ans dans un pays, franchement, il a 6 enfants sont nés ici, ils sont grandis ici, ils ont fait leurs études ici à Dakar. Donc, je pense que franchement, c'est une décision qui a été prise par précipitation, mais je ne pense pas que ça y aura lieu.
Nous parlons de tout à fait autre chose à 12h et quasiment 10 minutes du dialogue opposition-pouvoir précisément. Cheikh Bamba Dieye n'est pas preneur de ce dialogue, selon le secrétaire général du FSDBJ. L'opposition n'a pas de problème avec Maître Ouad, mais c'est plutôt Maître Ouad qui a un problème avec le peuple sénégalais. Cheikh Bamba Dieye attend plutôt de ce dernier qu'il renonce à sa candidature en 2012. Cheikh Bamba Dieye, que nous écoutons avec Mamadou Diop.
Dans l'esprit même que je dénie le dialogue, je pense qu'aujourd'hui, la réclame populaire, ce que nous exigeons de notre président de la République, on ne peut pas l'avoir par un dialogue. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que la loi soit appliquée, c'est que la constitution soit respectée. Il n'y a pas 11 millions de Sénégalais qui sont dans cette position-là. C'est un seul individu. Et il va dialoguer par rapport à qui? Pour nous dire quoi? Parce que moi, je veux qu'on soit objectif et logique avec nous-mêmes. Nous avons un problème par rapport à un président de la République qui, après avoir épuisé ses mandats, veut un mandat de plus. On va dialoguer pourquoi? Pour lui laisser la possibilité de refaire un autre mandat. Il n'y a qu'une seule chose qui intéresse. Une seule chose qui est importante, c'est que nous n'acceptons pas que le débat soit dévié ou que ce débat aille dans des espaces de dialogue qui n'existent nulle part. La seule chose qui est importante pour le Sénégal aujourd'hui, c'est qu'un seul homme doit se positionner et personne d'autre. C'est le président de la République et il doit se positionner sur deux choses. Rassurer les Sénégalais qu'il ne va pas se présenter, non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce que la loi ne l'y autorise pas. Et deuxièmement, qu'il s'engage à ce que les élections à venir se passent dans les meilleures conditions de transparence et de régularité. Et pour ce fait, il faut que toutes les personnes qui ont une coloration politique dégagent du processus électoral. Et ça, c'est très clair. La certitude qu'il ne se présentera pas et l'engagement qu'il aura à faire pour dire que les élections vont se passer dans les meilleures conditions avec les conditions qui vont avoir.
Un petit retour en arrière pour parler de l'affaire Abreu, avec ce point de presse prévu à 17h chez El Maître Elash Diouf, un des avocats d'Issène Abreu. Des avocats d'Issène Abreu qui comptent pour l'occasion faire d'importantes déclarations sur l'évolution de cette affaire et également sur le point de vue de Issène Abreu même sur l'affaire de son expulsion au Tchad.
Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité.
RFM, partout, tout le temps.
Campagne agricole, un bon déroulement des opérations de distribution de semences. C'est l'avis du ministre de l'Agriculture qui reconnaît toutefois des difficultés dans certaines localités du fait, entre autres, de leur enclavement. Par ailleurs, les quotas au niveau national ont connu une augmentation de plus de 35%. Mohamed Jodio.
Quand le ministre de l'Agriculture juge les opérations de distribution des semences, il distribue les bons points.
À ce qui concerne l'arachide, nous sommes à un taux de mise en place de plus de 99%. Pour les céréales, nous sommes à plus de 90%.
Il reste tout de même quelques localités isolées ou enclavées qui attendent toujours leurs semences.
Des points sont très difficiles à joindre, comme les régions extrêmement éloignées, ou alors ce sont des points où la pluie a été tellement précoce. C'est le cas, par exemple, des régions du sud, pour lesquelles aujourd'hui le transport est extrêmement difficile. Mais malgré tout, nous avons fait quand même des performances avec les fournisseurs.
Cette année, notre Radim Gueye, le quota des communes rurales a été augmenté de plus de 35%.
Certaines communes rurales même ont vu leur quota doublé. Les communes rurales qui ont été éclatées en deux ou trois par suite du découpage ont vu même leur quota de l'année dernière triplé.
Pour une bonne campagne agricole, le ministre de l'Agriculture prie pour un hivernage pluvieux.
Un bras à Dieu, le Tout-Puissant et l'Improlé pour qu'il y ait une bonne pluviométrie.
Mohamed Jodiop Djurbel, RFM.
Et à propos de cette campagne agricole, Kaffrine semble le revers de la médaille. Les agriculteurs dans cette localité dénoncent en effet les retards notés dans la distribution de semences et des intrants. Et selon eux, certaines semences reçues sont de mauvaise qualité. Des responsables du secteur montent au créneau ainsi pour demander aux autorités de prendre les mesures qui s'imposent. Écoutons à ce propos Abdoulaye Seignane, qui est le secrétaire général du syndicat Japando à Kaffrine.
La situation se pose au niveau des intrants. La mise en place des stocks d'intrants, 6-20-10 arachides, il y a quelques communes rurales qui ont reçu à peu près 30 à 50% de leur stock initial en intrant 6-20-10. Le triple 15, qui est pour le maïs, le sorgho hybride pour les céréales, on peut dire que vraiment on est à 90% alors des stocks qu'on doit mettre en place. Ce qui reste encore le 15-10 sont les intrants alors de céréales qui n'ont pas été effectués sur place. À propos de l'urée, on attend toujours. À propos de l'arachide, au début il y avait quelques problèmes avec les fournisseurs d'arachide. Parce qu'actuellement, après avoir reçu le quota de chaque comitral, au niveau de Sunior, au niveau des fournisseurs, le problème qui se posait, c'était un peu au niveau de Sunior. Parce que le problème en est que, il y avait un problème de retard de mise en sac au niveau de Sunior. Parce qu'il y avait, alors ils avaient dit qu'il y avait un manquement de sac. Il y avait encore la qualité de l'arachide qui posait problème. De même que Kaï, il n'y avait pas de qualité. Au niveau de Nibi, il y avait Sunior qui avait devait livrer les graines, mais il y avait des problèmes de qualité. Actuellement, le temps que le directeur de l'agriculture change d'un opérateur à un autre, alors ça a porté un peu de retard au niveau de la mise en place et à la distribution de ces semences.
Abdoulaye Seignane qui était au micro de Mamadou Amar Ndion. Toute autre chose à Louga, c'est la grogne des chauffeurs de taxi jaune noir. L'arrivée des mototaxis a constitué un coup de grâce pour ce secteur qui était déjà bien mal en point. Ces chauffeurs remontés contre une concurrence jugée déloyale entendent s'abstenir dorénavant de s'acquitter de toute forme de taxes et de droits. Ibrahim Khalil Sen.
La venue des mototaxis Jakarta dans la capitale du Ndiambour n'est pas du goût des chauffeurs de taxi jaune et noir. Ils estiment que ces mototaxis Jakarta, acceptés par les autorités locales, circulent dans l'illégalité. Pour exiger une réglementation de la circulation de ces engins, les chauffeurs de taxi jaune et noir ont brandi des menaces qu'ils comptent exécuter à partir de ce lundi. Cheikh Fall, il est le président du regroupement des chauffeurs de taxi de Louga. Comme eux, ils ne payent pas de taxes et ils circulent normalement, nous aussi, nous ferons de même. À partir de ce lundi, nous comptons nous mobiliser. Tous ceux qui payent des taxes, des droits de stationnement, ne le feront plus. Nous allons rendre les licences au gouverneur en attendant le règlement définitif de ce problème. Nous allons peindre nos taxis en vert blanc ou en noir, circuler comme des véhicules particuliers. On ne peut plus payer des taxes parce que nous n'avons même plus de quoi amener à la maison. Tout ça, c'est à cause des mototaxis
Jakarta.
Soutenu par le regroupement des transporteurs, les chauffeurs de taxis jaunes et noirs de la capitale du Ndiambour ne comptent pas lâcher du lest. Ibrahim Khalil Senlouga, RFM.
Une pêche responsable pour trouver des solutions aux difficultés de la filière. Les acteurs de la pêche ont organisé un forum autour de cet aspect. Ils invitent à éviter les mauvaises formes de pêche et demandent à l'État de ne plus violer les normes et lois qui régissent le secteur. Mamadou Diop.
La pêche artisanale, un des leviers de l'économie mouroise, traverse des situations difficiles. Rareté du produit halieutique, chèreté des équipements et du carburant sont entre autres les maux qui gangrènent le secteur. Pour sortir la tête de l'eau, les acteurs de la filière ont organisé pour la deuxième fois un forum sur la pêche responsable. Gaoussou Gueye est le président du GIE Bolo Dekel Gueye Guidembour.
Les auteurs, il y a la pêche industrielle, il y a les bateaux étrangers, mais il ne faut pas oublier qu'aussi il y a la pêche artisanale. Il y a de mauvaises pratiques qu'ils font et qu'il va falloir abandonner. Il y a la pêche à l'explosif, il y a la pêche sous-marine. Il y a d'autres types de pêche que vraiment il faut bannir de leur comportement.
À l'unanimité, les acteurs de la pêche invitent l'État à ne plus violer les lois régissant l'activité de la pêche au Sénégal.
Mais non, parce qu'on ne peut pas mettre un code de la pêche et violer son propre code. Et aujourd'hui, ce n'est pas les acteurs de la pêche qui l'ont violé, c'est l'État. À travers le ministère de la Pêche. Et c'est pour cela que nous voudrons montrer notre capacité de proposition et d'anticipation. Et j'ai dit dans mon discours, il ne sert plus à rien que quand il y a problème, les industriels, les exploiteurs, les pêcheurs artisans se retrouvent pour être des éléments de riposte ou créer un cadre de concertation qui nous permette d'anticiper et de proposer.
Rappelons que la pêche représente 1,7% du PIB et 12,7% des recettes d'exportation. En 2009, d'après Gaoussou Gueye, la production était de 445 456 tonnes pour une valeur commerciale de 165 milliards de francs CFA. RFM Mour, Momodou Diop.
Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles.
RFM, la radio de toute l'actualité.
Un reportage consacré à la vente de ferraille, une nouvelle activité lucrative pour de bons de nombreux jeunes de la banlieue. Une nouvelle occupation, pleine de risques toutefois. Un adolescent a ainsi trouvé récemment la mort dans les décombres d'une maison abandonnée. Il cherchait de la ferraille. Notre reporter a rencontré un jeune chercheur de ferraille, Salif Sow.
Le teint noir, il est assis sur la charrette, à sa gauche deux barres de fer, derrière lui un ordinateur qui ne fonctionne plus. Ibrahim Magnan, le jeune charretier, exerce depuis un certain temps exclusivement le métier de vendeur de ferraille.
Je vends de la ferraille, c'est-à-dire je ne peux pas rester chez moi.
Une profession qui fait ses beaux jours, un métier qui rapporte.
Par jour, tu peux gagner entre 2000 francs et 5 francs.
Mais trouver le produit tant prisé reste une difficile tâche.
On fait le tour de la banlieue. Tu peux quitter Pékin, venir jusqu'à Guédioua, ou bien quitter Pékin, aller au parcelle de Sidi ou à Yumbel.
La ferraille est par la suite revendue.
Bon, on va revendre ça. On achète ça au niveau des chantiers, des enfants ou bien dans les maisons.
Signe des temps ou pas, en tout cas, les vendeurs de ferraille ne se comptent plus par le doigt. En banlieue, nombreux sont les jeunes qui pratiquent ce métier. Le terrain est certes propice pour cette économie informelle qui a ses risques. Salut, Sow Guédioua, Radio Futur Média.
Et en bref, avant de retrouver la page sport, les habitants de la cité Atepa et les riverains de la plage Malibu ont dénoncé la construction de deux canaux à hauteur de leur cité. Ils disent ainsi craindre pour leur santé à cause du péril sur l'environnement que risque d'entraîner l'installation de ces deux ouvrages. Nous y reviendrons.
RFI Sport.
Malad Junior Diagne, bonjour.
Bonjour Makumba.
Du football pour commencer.
Avec Sénégal, Guinée comptant pour les éliminatoires des prochains Jeux africains, c'est aujourd'hui. Les Lions olympiques sont obligés de battre la Guinée pour passer. Ils avaient perdu la manche aller il y a une semaine. C'était à Conakry sur la marque d'un but à zéro. Après une semaine de préparation et le soutien que leur a apporté les anciens internationaux, les protégés de Maya Sidmar et d'Abdoulaye Sarr se disent être prêts à relever le défi pour décrocher le ticket qualificatif pour se rendre à Maputo. C'est donc aujourd'hui à 17h au stade Léopold Sédar Senghor. Le public est invité à venir soutenir les Lions du Sénégal. Match à suivre en direct et en intégralité sur RFM à partir de 17h avec Cheikh Tidiane Diagne et moi-même au poste de commentateur avec comme consultant Tassirou Diallo. Football avec la 21e journée de Ligue 1 qui a démarré hier avec les résultats enregistrés. Dara, Pekin, Zerabi partout. Compagnie sucrière sénégalaise contre Touré Konda également sur ce même score, Zerabi partout. À Pekin, l'AS Pekin a partagé les points avec HLM, score 1 but partout. Aujourd'hui, la seule rencontre se passera à Ziguinchor avec le Casasport qui va recevoir le leader l'Union Sportive de Wakam. Et demain lundi, Duc, Douane, Gorée, Gia, Yakar Diarra et Guédiaï Football Club contre l'équipe de Nyaritali. On parle de basketball avec les demi-finales du championnat qui sont jouées hier, tant chez les filles que chez les garçons. Chez les filles, on connaît l'affiche, c'est Saint-Louis Basket Club qui va défier les étudiantes du Dakar Université Club. Ces deux équipes se sont qualifiées respectivement en battant le Diarraf et l'équipe de la SSC Bop. Du côté du Duc Khadim Baye, dite bébé, la meneuse se dit être confiante. Elle pense que son équipe et ses coéquipières vont tout faire pour remporter ce championnat. Khadim Baye, bébé, que nous écoutons.
Bah, c'est notre défense, hein. On est basé sur notre défense agressive, donc on les a battus, quoi. Parce qu'on était très agressif en défense, oui. Les deux équipes se valent, quoi.
Vous pensez que le Duc peut battre l'équipe de Saint-Louis Basket Club?
Ah, bien sûr, on peut les battre, hein. Parce qu'on est allé à Saint-Louis les battre là-bas. Donc, on peut les battre chez nous. Bah, on était plus motivés qu'eux. Et on était agressif en défense. Et on était plus athlétique qu'eux. Ils jouent la même tactique de jeu, quoi.
Vous pensez pouvoir battre El Hadjara? Vous dites que la finale de la Coupe du Championnat, c'est pour les étudiants?
Oui, Inch'Allah.
Vous dites quoi aux supporters pour la mobilisation le jour de la finale?
Ah, bah, devenir une supporter comme d'habitude, comme ils le font chaque finale. Oui.
Comment vous tirez, quel est le bilan que vous tirez de votre saison?
Bah, je peux dire qu'on a fait une belle saison. Comme on a deux finales, on a gagné une. Donc on va gagner l'autre finale là pour terminer en beauté, quoi. Ouais.
Pour terminer en beauté, du côté Saint-Louisien, la mission n'est pas encore terminée. Certes, une bonne partie du chemin a été bien remplie, mais pour Birou, l'objectif final, c'est de remporter et la Coupe du Sénégal et le championnat. Birou est l'entraîneur de Saint-Louis Basket Club.
Il nous reste à prendre les deux coupes, parce que notre objectif, c'est ça, c'est de prendre les deux. Maintenant, après avoir pris la deuxième, on va tirer notre bilan, et j'espère qu'il sera positif.
C'est déterminant dans ces deux rencontres.
Bon, c'est le travail, vous savez, hein. Que le basket Saint-Louisien, c'est quelque chose qui a été battu depuis 20 ans. Il y a des écoles de basket et tout. Maintenant, quand on était parti pour les championnats d'Afrique à Bizerte, on était des incompris. Parce que les gens n'avaient pas compris pourquoi on était parti à Bizerte. Pourquoi on avait pris des raclés là-bas. C'était notre première sortie. Mais nous, notre objectif, c'était de préparer le championnat en passant par les championnats d'Afrique des clubs. Mais nous, on était des incompris. Maintenant, la finalité, c'est ça qu'on recherchait. Maintenant, il nous reste à prendre les deux coupes, ce n'est pas encore terminé. Bon, moi, je dis, hein, et j'ai l'habitude de dire ça, qu'une équipe disciplinée, qu'une équipe difficile à jouer sur le plan tactique. Mais malheureusement, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'éléments. Mais sur le plan tactique, c'est une équipe très difficile à manœuvrer. Et maintenant, moi, j'avais compris que le coach est très rusé. Il m'empêchait de courir. Mais moi, je savais que le coach avait 7 éléments prêts. Donc, il fallait les épuiser. Les courir avec, les prendre sur la longueur de terrain et courir avec. Mais vers la fin, elles vont lâcher prise et on va prendre le match. C'est ce qui s'est passé, on a pris le match. On a pris le match à deux reprises. On l'a pris en troisième quart-temps, ça nous a échappé. Mais quand pendant les derniers minutes, quand on a repris le match, mais c'était fini. Hein, parce que l'adversaire était épuisé.
Et pour les garçons également, on connaît l'affiche de la finale. C'est l'Université Gaston Berger qui va affronter l'équipe de l'AS Douane. Ces deux équipes se sont également hier qualifiées pour la finale. L'UGB est allé décrocher son ticket à Thiès devant Rail, alors que l'AS Douane a battu les étudiants du Duc devant des supporters vêtus de t-shirts jaunes et noirs qui étaient venus nombreux mais les douaniers étaient plus déterminés sur le Terraflex Makumba.
Une page sport présentée par Malal Junior Diagne. À tout à l'heure pour le match.
À tout à l'heure, Makumba.
À 17h.
Vous allez venir au stade?
Bien sûr.
À tout à l'heure alors.
À tout à l'heure.
Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures, vous offre la revue de presse. Hertz.